je viens d'entendre, et c'est tout à fait rassurant, que BHL est en train de manifester pour les Iraniens. Bon, bah, ma foi, ça y est, on est sauvés.
Allô, les studios, ici BHL. Je suis à Téhéran, ville de toutes les souffrances, qui a besoin de l'aide de toutes les démocraties. J'ai accosté dans la nuit avec un commando de Marines, et je peux vous témoigner de ce qui se passe. C'est pire qu'à Grozny, croyez-moi. Ça tombe de partout. Mon guide vient de se faire descendre à mes côtés, une balle en pleine tête. Non, c'est jeu. Ma belle chemise blanche, des taches de sang viennent la souiller. Merde. Je dois arrêter mon reportage. Le danger est partout. Peut-être à bientôt. Je dis bien peut-être. Je répète, ici BHL, en direct de Téhéran.
Peut-être que cette fois-ci, notre philomane va peut-être nous épargner ce genre de situation. C'est Jackie Piquet-Odioli.
Ah, les insolents, les mécréants. Ils ont réussi à lui cacher son week-end au Cap Nègre et sa parodie droit de France lundi à Versailles. Qui ça? Mais vous savez bien, les deux ridicules, les deux affabulateurs, ces deux juges d'instruction qui remuent à nouveau la vase, qui recouvraient pudiquement les véritables raisons de l'attentat de Karachi. Il y a eu 11 morts civiles après tout. Pourquoi faire tant d'histoires? Mais ça ne va pas se passer comme ça. Si on a coutume de dire que les juges d'instruction sont les personnages les plus puissants de France, c'est peut-être un peu vrai puisque Nicolas Sarkozy a pris lui-même la peine d'annoncer qu'il allait les supprimer pour les remplacer par les procureurs. Eux, les procureurs, au moins, ils sont soumis et dociles. Leur avancement est en jeu. Ils prennent leurs instructions directement auprès du ministère de la Justice, c'est-à-dire depuis 2 ans auprès de l'Élysée. Alors retenez bien ça, mesdames et messieurs les juges d'instruction. Pas de concurrence. Il n'y a qu'un personnage puissant en France. Et si vous voulez en avoir confirmation, allez donc à Versailles lundi vous prosterner, comme vos collègues procureurs, sur le passage de son carrosse. Merci, c'était Frédéric Lefebvre, porte-parole. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Véronique de Paris. Je viens d'écouter l'émission avec Jacqueline Lortiwa et je voulais partager quelque chose. Voilà, je voulais lui dire que, par votre intermédiaire, que je ferai plus jamais une quiche sans penser à cette émission. Voilà, je voulais lui dire que, moi aussi, finalement, je l'aime. Voilà, merci.
Merci de nous donner envie d'éteindre la radio juste après vous avoir écouté. On peut pas écouter les infos, on peut pas se laisser envahir par l'atrocité du monde, par la bêtise des gens. On ne peut que repenser à elle et à ce qu'elle nous a apporté. Merci, c'était Anaïs de Creuse.
Tant d'amour, Jacqueline, dans ta voix, ton rire, tes mots, j'ai tout pris, j'ai tout écouté. C'est des moments essentiels, je m'en fais aussi. Et je me l'ai fait pour mon mari handicapé qui meurt maintenant. Et pour ma fille qui souffre de troubles du comportement, qui est psychiatrisée, qui se bat pour vivre. Je suis bouleversée. Je voulais dire merci. Un très humble, un très grand merci. À Jacqueline, à Daniel Bernier, à toute l'équipe. C'était Annelise de Toulouse. Merci encore.
Je suis absolument bouleversée par ce message de Jacqueline. Je pense qu'il n'y a rien à lui dire. On ne peut pas lui dire courage. Elle en a beaucoup. Je ne sais pas, à sa place, je crois que j'aurais eu le courage d'en finir.
Beaucoup d'émotions pour cette émission de vendredi, cet entretien avec Jacqueline, cette rencontre avec Jacqueline, beaucoup d'émotions. Vous entendez ces témoignages dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Beaucoup de messages que nous lui transmettons et transmettrons, parce que nous savons bien que ça va continuer, vos messages vont continuer d'arriver. D'ailleurs, pas seulement, on l'entend sur ce sujet aujourd'hui avec Charlotte Perry. Eh ben, on va pas tout à fait rien faire, on va non faire. Il y a faire et non faire. Qu'est-ce que c'est non faire? Ben non faire, c'est un atelier où l'on peint, et on fait pas que ça, on fait de la musique aussi, ou ça dans un lieu un petit peu particulier qui est Maison Blanche. Non pas la Maison Blanche, mais Maison Blanche qui est encore et qui a surtout été un grand hôpital psychiatrique. c'est à la périphérie de Paris, à Neuilly-sur-Marne. Et pendant longtemps, c'était, toi, t'as qu'à aller à Maison-Blanche, comme on disait, t'as qu'à aller à Ville-Évrard. C'était ces grands asiles d'aliénés où on envoyait, c'est un peu le dépotoir, encore que c'était mieux qu'auparavant. Vous connaissez peut-être un peu ce qu'a été l'histoire de la folie dans notre beau pays. Et c'est intéressant parce que récemment, notre président de la République, qui ne fait pas que des discours à Versailles, s'est exprimé à l'occasion d'un fait divers terrible sur la psychiatrie, et son discours a beaucoup, beaucoup inquiété et indigné, révolté le milieu de la psychiatrie, tant son discours a semblé sécuritaire. Pas seulement semblé d'ailleurs, puisque des mesures sont prises. Et ça, c'est une vieille histoire qui continue, on le voit, aujourd'hui, entre le sécuritaire et puis la volonté toujours présente à travers l'histoire, de réintégrer, ce qui nous fait évidemment très très peur à tous, au plus profond de chacun, c'est-à-dire la folie. Alors on va aller dans cet atelier qui est encore là, dans ce grand hôpital de Maison Blanche, qui est en grande partie à l'abandon, mais il s'accroche quand même, cet atelier, et ceux qui l'ont créé, et celui qui l'a créé, et ceux qui travaillent, qui viennent peindre, se rencontrer. C'est un endroit curieux, et c'est un endroit émouvant, et c'est un endroit qui va à l'encontre, bien évidemment, vous avez compris, de cette tendance sécuritaire, et de l'enfermement et des terribles médecins aliénistes. Vous vous souvenez peut-être de ce que disait Antonin Artaud. Et peut-être aussi qu'on va partir dans cette heure ensemble avec en tête une phrase d'Henri Michaud qui disait « Qui cache son fou meurt sans joie ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est pour confirmer, comme tous les derniers mercredis du mois, la tenue du repère de Briouze dans l'Orne, mercredi 24 juin à 17 ou 18 heures, au bar tabac Le Brazza, 22 rue Docteur Petit. Cherchez la table où se trouve le canard enchaîné.
Face à une crise laitière sans précédent, pour ne plus jamais vendre en dessous de nos coûts de production, la grève européenne du lait est la seule alternative. Les membres de l'European Milk Board, soit 130 000 producteurs sur 14 pays, sont prêts à faire la grève du lait. L'API, Association de producteurs de lait indépendants, est adhérente de l'EMB et organise la grève du lait en France. Venez nombreux vous informer et débattre aux deux rendez-vous possibles. Une réunion exceptionnelle avec les intervenants de l'EMB et API à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche, le 23 juin 2009 à 21h. Et une réunion locale à Jouer-du-Bois dans l'Orne le 25 juin 2009 à 21h, à la salle des fêtes de Jouer-du-Bois. Merci à tous.
Bonsoir, je suis une maman d'un élève de CM1 d'une école de Marseille, dans le premier arrondissement, et je souhaiterais vous soumettre un petit sujet, parce que le professeur de mon fils, qui était en CM1, CM2, risque le licenciement. Il est accusé par sa hiérarchie d'un manque total de professionnalisme, de conscience professionnelle. Il est accusé aussi de mettre en danger nos enfants, alors qu'il n'en est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout vrai. Nos enfants évoluent correctement, voire avec beaucoup plus d'autonomie. Et je souhaiterais qu'on soumette ce sujet. Donc, si les gens sont intéressés, ils pourraient aussi se connecter sur le www.soutienerwanredon.org. Il s'agit d'un site où il y a une pétition à signer, ainsi que l'explication de toute cette situation dans laquelle se retrouve ce monsieur. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous intéressera, et c'est en partie pour l'avenir de nos enfants, même beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.
T'as le bruit des clés là, hein, c'est bien.
Bonsoir.
Bonjour docteur.
Ah, je suis pas un docteur.
Pas encore.
Je suis prof d'anglais.
C'est vrai?
Oui.
I think when a cup of tea is good, it's not because my bicycle was green or and yellow. No? Sure?
Un ananas,
une banane, une pomme et un personnage.
Le personnage, c'est celui qui est en noir ?
En noir, oui. C'est un vampire.
Un vampire ?
Un vampire, oui.
Pourquoi t'as fait un vampire ?
Parce que ça fait du mal, ça suce le sang. Ça suce le sang des filles. Ça plante ses dents, puis ça croque. Ça croque les filles.
Et pourquoi alors t'as fait un vampire ?
Parce qu'il y avait la teinte de noir, il y a deux trucs qui ont coulé bêtement. J'ai dit, je vais commencer à faire un personnage.
Ça a fini, c'était un...
Ça a fini en vampire.
Mais c'est ça le problème, il a toujours été là. De toute manière, la folie, c'est la question de l'exister que ça pose, la folie. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Et je crois que la bonne question, c'est comment je veux faire pour m'en tirer, quoi ? Puisque je suis là, qu'est-ce que je veux foutre de ma carcasse ?
Moi, je m'appelle Charlotte.
Moi, c'est pas quoi. Et alors, c'est combien de temps que tu es à mise en blanche ? Ça se passe bien, l'hospitalisation ?
Ça va à peu près.
Salut, c'est Daniel Mermez, et là bas j'y suis avec Charlotte Perry, l'atelier du non-faire.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est incroyable cet endroit, c'est incroyable, il y a des tableaux partout, partout, au mur, au sol, il y a des écritures aussi partout, au mur.
Ici, on a l'impression que c'est le monde des merveilles, mais on pourrait aussi ajouter le monde des douleurs. Ouais. Les merveilles pour la quantité de choses produites ici, de travaux, de peinture, de choses comme ça, de la quantité de choses qu'ils appellent le beau, tu vois. Et en même temps, le beau. Toute cette douleur, cette difficulté à vivre qui est cachée derrière, on pourrait pas dire juste en regardant comme ça, mais derrière le tableau. Hein?
Surestimation de ses capacités, désir immodéré de puissance, amour exclusif de soi, signe d'un manque affectif. En psychiatrie, la mégalomanie est classée dans la famille des psychoses délirantes chroniques. On la nomme couramment folie des grandeurs. Voilà une définition de la mégalomanie qui, bien sûr, n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer à Versailles, comme cette musique en atteste. C'est pas à Versailles que nous allons, c'est à Maison Blanche, à Neuilly-sur-Marne, dans le 9-3, dans la banlieue de Paris. La Maison Blanche, on dit pas la Maison Blanche, on dit Maison Blanche, c'était, je dis bien c'était parce que c'est en voie de mutation, c'était un grand hôpital psychiatrique, considérés comme des asiles, ces grands hôpitaux autour de Paris avaient pour fonction, eh bien, d'accueillir les malades mentaux, les aliénés, comme on disait. Et puis aujourd'hui, on va vers d'autres politiques, vers d'autres dispositifs qui sont des centres beaucoup plus réduits à l'intérieur de Paris, qui permettent aux patients d'être plus près de la ville, de leur famille, etc. Toutes ces mutations, vous vous en doutez bien, ne vont pas sans problème et sans contestation. Il y a eu à Maison Blanche jusqu'à 3200 malades qui venaient, donc, comme je l'ai dit, de Paris. Aujourd'hui, la plupart des pavillons sont fermés, ce qui laisse un paysage et un endroit formidable. Évidemment, les promoteurs immobiliers se frottent les mains, mais il reste encore, tel le village gaulois, un petit endroit qui qui résiste et qui s'appelle l'atelier du non-faire. Vous avez compris, il s'agit d'un endroit où l'on vient peindre quand on est pensionnaire de cet endroit ou qu'on y vient pour quel qu'on y séjourne. Et c'est un certain Christian Sabas qui est infirmier psychiatrique, qui est aussi médecin, qui est pas médecin mais infirmier, mais qui est aussi musicien et peintre, qui anime cet atelier. Alors c'est là où on va passer cette heure avec en présent à l'esprit ces incidents, enfin plus que ça, ce drame de novembre dernier qui avait suscité, inspiré ce discours et cette intervention du président de la République qui a beaucoup surpris et indigné la profession psychiatrique, tant ils ont vu là le retour au sécuritaire, le retour à l'enfermement, le retour au terrible passé dans la façon que nous avions jadis de considérer l'aliénation, le fou, qui était qu'on a autrefois, qui était torturé, qui était maltraité. Le sort, son sort s'est un peu amélioré avec le 19e siècle, mais il y a eu une constante de vouloir humaniser, de vouloir s'attaquer, attaquer ce mystère qui est évidemment la folie. Et il y a donc là un enjeu extrêmement important, un enjeu de civilisation, un enjeu de philosophie, un enjeu très profond. Il faut jamais oublier ce qui s'est passé au début de la Deuxième Guerre mondiale, où on a eu 40 000 aliénés, pensionnaires de maisons, dont celle-ci, dont Maison Blanche, qui ont été abandonnés et sont morts de faim, 40 000. Il y a donc quelque chose entre cette société et ces malades mentaux qui est quelque chose d'important sur lesquels il faut évidemment réfléchir, quelles que soient les peurs très très profondes que cette souffrance puis peut évoquer. Et là, Christian Sabas vient de le dire, on passe de la souffrance à la merveille. Merveille, effectivement, que pas mal de ces toiles, pas mal de ces peintures et pas mal de cette démarche. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, l'atelier du non-faire.
T'as le bruit des clés, là, hein, c'est bien.
Parle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage. Parle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur. Cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie. C'est pour quelques pas, l'espace horrible fond sur moi, comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi-hi-hi. Que c'est drôle, que c'est joli. Dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis.
Yeah.
tous les gens ici, les gens de pouvoir ici, ils se sont toujours arrangés pour minimiser la chose qui est faite ici. Parce que ça va totalement à l'encontre de ce qu'on dit en psychiatrie, qu'on pratique en psychiatrie, comme quoi, oui, c'est tous des malades, il n'y a rien à faire, et quand tu arrives en psychiatrie, t'es naze, t'es cuit, et que eux, les médecins, ou je sais pas quoi, ils vont juste tenter de réparer la chose un petit peu, en donnant quelques gouttes, maintenir les gens. Mais en fait, non. Les gens, ils ont un vrai potentiel, et qu'il y a une guérison possible. Parce que la guérison, c'est pouvoir être avec des gens pendant longtemps, pendant le temps qu'il faut. Mais t'as pas des gens qui sont comme ça. Les gens sont pris par leur temps à eux, et qu'il faut qu'ils fassent, qu'ils gagnent leur vie, qu'ils fassent ça et ça dans la vie, qu'il faut qu'ils remplissent leur vie. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la vie de l'autre. Et le problème, il est simple. Donc, tu comprends? La folie permet justement des gens de travailler avec le temps. Le temps, c'est pas un ennemi. Tu comprends? Eh ben, c'est là le truc, quoi.
C'est de la peinture à l'huile ou c'est de l'acrylique?
Oui, c'est acrylique, hein. C'est un bon mélange, on pourrait dire, de liant acrylique et puis de pigments. On achète toujours un kilo ou deux de pigments de différentes couleurs et puis on fait un petit mélange, un petit truc sympathique, quoi. Comme des pros, comme des grands. On est des mélangeurs, tu sais. On malaxe.
Voilà l'endroit, et voilà l'homme qui est l'instigateur de cet endroit, cet atelier de peinture, dans cet hôpital psychiatrique, en une situation un peu crépusculaire, et qui s'accroche aux branches avant peut-être d'être déplacé ailleurs, et donc Christian Sabas. Alors, il a créé cet endroit en 1983 dans sa qualité d'infirmier psychiatrique, mais c'est peu de dire qu'il agace. Il agace Christian Sabas parce que c'est une attitude qui rappelle le courant antipsychiatrique du début des années 70, qui était l'idée d'une sorte de thérapie communautaire qui préconisait l'abolition des rapports hiérarchiques entre soignants et soigner, etc. Et tout ça, c'est de l'histoire ancienne dans un monde avec un président qui fustige, comme on l'a entendu, l'esprit de 68. Tout ça est un petit peu anachronique. Mais c'est toujours là. Et ça marche. Et ça marche pas si mal que ça avec des patients qui sont, comme il le disait, enfermés souvent dans leur souffrance. Et il faut jamais oublier que même si certains essaient de faire passer les fous pour des fous furieux, que c'est avant tout une férocité qui se retourne contre eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont dans des situations de souffrance et de vulnérabilité, et la camisole chimique dans laquelle ils sont et à travers laquelle il nous parle ne suffit pas toujours à faire d'eux des aliénés.
Christian, tu peux me préparer du noir, s'il te plaît?
Ah, tiens, je peux en faire du noir, tiens.
Ah, bon, ben, noir, c'est mieux, noir, c'est noir.
Noir, c'est noir! Tu sais, lui, un jour, il s'est foutu de ma gueule, il s'est assis là. Et puis je jouais au piano et puis il a pris mes mains comme ça, il m'a dit il peut le manger. Je lui dis pourquoi, il me dit c'est du chocolat. tu sais, il a un humour, le Bering, ouais, sacré humour. Mais il s'en rappelle pas de ces choses-là.
Non, ça fait c'est ça. On me donne trop de médicaments. On ne dit pas tout, mais non.
Tu fais les cheveux maintenant?
Non, je fais le contour.
En noir?
Qu'est-ce que tu laisses entendre avec le noir au fond comme ça?
Un contre-champ.
Donc ça a chanté et puis on est en guerre contre le chant.
Non, mais en lumière. Comme au cinéma.
Si je regarde et puis je vois une femme.
Prenez du relief. Du relief à la peinture.
Tu es fatigué?
Ouais.
Pourquoi?
J'ai des médicaments. Mais après, ça passe pas trop avec le micro, là. J'aime pas que tu vas être bien en vie. Qu'est-ce qu'on pense?
Il est bien le noir, je trouve que ça fait ressortir le corps de la femme.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, pas mal. Peut-être encore des trucs à améliorer sur le corps. Je trouve pas parfait.
Moi j'aime bien, là, sur
bien
le côté.
Ça,
le.
Comme ça.
Ouais, il est bien comme ça.
On
moi,
laisse comme ça. On fait autre chose.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus?
Je sais pas trop, les seins sont pas très bien.
Ils sont un petit peu hauts.
Ah, s'ils sont trop hauts, c'est qu'il y a un truc à faire. Bon. Ouais, je vais retravailler un peu. Je vais leur travailler un peu. Je vais remettre du rouge. Je vais refaire un truc.
Avant, on se pressionne sous toutes ses formes.
Ça va, on va attendre. On n'est pas. 80 gouttes de l'oxapac, non, de l'argactine le matin, plus un épacote, plus un immobile, plus un épicure. Le soir, on fait la même séance de conneries. Avec 100 gouttes de l'argactine, avec un épacote, plus un richard de la cellule. C'est n'importe quoi, leur connerie.
Tout ça, c'est les médicaments qu'ils te donnent, là, ce que tu m'as dit.
Ça, après, ils m'ont pas donné, avec ça. Ils m'ont pas donné.
Non, il y a un
peu.
Pourquoi ils te donnent tous ces médicaments?
Parce que, ils disent, ils seraient peut-être bagarreurs, ou je sais pas quoi. Ils veulent m'enlever ma force. Alors, j'ai jamais cherché à bagarre à personne. C'est tout. C'est juste la camisole chimique.
La camisole chimique. Est... Il faut bien savoir que les fous, il y a une intermittence de la folie. La plupart des fous sont pas fous à plein temps. Pour beaucoup, ça procède par crise, par épisode très souvent douloureux. Et on est tout à fait normal entre guillemets, et puis il y a des manifestations plus ou moins, voilà, et ces alternances de modes de vie, de rythmes de vie qui caractérisent la vie de ceux qu'on appelle les fous, évidemment entre guillemets. Et Christian Sabas fait partie de ceux, encore une fois, qui pratiquent des thérapies qui s'imaginent pas être des solutions, mais qui sont plus des pensées, qui sont plus des philosophies, qui sont plus des considérations politiques sur la vie en général, que la preuve thérapeutique.
Ils ont voulu casser tout ça, ouais.
Exactement, hein.
Mais je crois que c'est la politique un vigueur, un service en ce moment. C'est-à-dire c'est une politique qui est effectivement d'empêcher l'individu de vivre. Ça, c'est une très bonne politique. On lui coupe le courant, on lui coupe le chauffage, et puis on ferme le lieu, quoi. Et puis on espère qu'il va disparaître. Mais je crois que c'est peut-être la folie qui fait que ça dure. Je vois que c'est la dose de folie que les gens ils ont en eux qui les fait résister à tout ça.
Ouais.
Nous, on demande en fait dans le non-faire qu'à continuer à on pourrait même pas dire exister, mais l'idée c'est que le lieu il sert à quelque chose, il sert à des hommes, il sert à des gens de se retrouver, parce que bien sûr tu peux t'abandonner aussi à ton sort ici et puis crever. Non, je pense que le non-faire, par la masse de création qu'il y a dedans, pose la question justement de l'existence des gens, de l'individu, parce que oui, ces choses-là qui semblent n'avoir pas vraiment de signification, donner un coup de pinceau par là, salir les murs, je sais pas moi, maculer de peinture le parquet, ben ces choses-là peuvent donner la pêche, donner la vie. Moi, je crois que c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et le lieu continue de vivre comme ça. Et même sans chauffage, sans électricité, eh ben on continue quand même.
Ça fait combien de temps qu'il existe cet atelier ici?
Ici existe depuis 83. Alors ça fait quand même un paquet d'années. Et c'est, les gens ils y viennent sans que ça soit une prescription médicale. On pourrait juste dire que c'est dans l'hôpital. Donc c'est quand même, on laisse les gens sortir et venir. Et bon, ils viennent dedans. Mais c'est pas vraiment vu de bon œil, quoi. Parce que bon, le mec, quand il a étudié pendant une dizaine d'années, c'est pas le coup de pinceau d'un dit malade qui va qui va sauver la situation de la psychiatrie, tu comprends? Donc le médecin, pour lui, c'est clair et net, c'est sa magie à lui, c'est 100 gouttes de nousinant, 200 gouttes d'aldol, 800 gouttes de d'Abilify ou 1000 gouttes de je sais pas quoi qui va sauver le mec.
Qui l'a fondé, l'enfant ?
Fondé, je suis à l'origine du truc parce que bon, il a bien fallu me caser quelque part et donc c'est devenu le non-faire. J'ai été casé dans un espèce de débarras et petit à petit, les gens qu'on a voulu se débarrasser d'eux sont venus dans le débarras et puis du coup, le débarras a pris forme comme ça, quoi, et c'est devenu le non-faire.
Et tu bossais ici avant de commencer?
Ouais, j'ai fait l'école infirmière de 75, 78. Et j'ai travaillé dans un pavillon, dans 58, 53, 52.
En
tant qu'infirmière.
Avec la blouse blanche.
La blouse, c'était difficile la blouse, quoi. Donc ça m'a valu plein de merde, en fait. Mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de blouse hein, pour être ici à parler avec des gens. Il n'y a pas besoin de blouse, mais bon. Les gens, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de l'uniforme, ils ont besoin d'un tas de trucs, d'un tas de signes de reconnaissance, tout et tout. Mais c'est plutôt des signes pour écraser l'autre, en fait. Hein. C'est des couvertures. Alors, il faut se protéger de l'autre, mais pour mieux l'écrabouiller. On peut dire ça comme ça.
Vos solitudes sera votre appui. Vivez maintenant les questions. Et il s'agit de tout vivre. Seul l'individu les élargir, être patient pour tout, ce qu'il y a d'irrésolu dans votre cœur. Essayez d'aimer les questions belles, même comme les chambres fermées, comme des livres écrits dans une langue étrangère. Aimez donc, cher, votre solitude.
Où est-ce que tu as appris à jouer du piano ?
Nulle part.
Nulle part ?
Je joue comme ça. J'aime bien. Ça me permet de m'exprimer un peu. Ah, mais si ça se passe bien, ça ira, mais c'est comme ça. J'étais toujours comme ça. Il y a eu un temps, j'étais toujours comme ça. Hein.
Ah bon ?
Mais là, j'ai ouvert le matin, ouvert l'après-midi, c'était bien. Quand il n'y a rien d'ouvert, on s'emmerde. Hein. Il n'y a rien à voir hein, où on est. Moi, je m'occupe comme je peux. Quand ma chambre est ouverte, je peux écouter mes compagnies, c'est bien. Écoute Mika, Mayansa, Zitop, Julien Hider, un peu tout.
Et qu'est-ce que tu fais sinon quand elle est fermée?
Ben, je suis obligé de rester dans le patio comme un con à attendre l'heure de la bouffe. Tu veux encore des dromadaires, Christian?
Hein?
Tu veux encore des dromadaires?
Des dromadaires.
C'est pas des dromadaires, des chameaux?
Moi, je crois que c'est des lapins.
Des lapins? Ou des chevals? Des chevaux?
Non, je pense pas.
J'essaie de parfaire un peu les bras. Les bras sont pas très, très beaux.
Ils sont longs, les bras.
Au moins, ici, on a les petits oiseaux. C'est froid, c'est hein, on a bavé. Moi, j'étais à Paris, c'est et je dormais à Beaubourg la nuit, hein, en plein hiver.
À Beaubourg?
Ouais.
Pourquoi?
En sorte de Beaubourg. Parce que j'avais marre d'être ici, je me suis tiré. Non, mais je me casse, c'est ça que je m'emmerde, mais tiens.
Tu fais comment
pour partir? Je suis parti en Italie, une fois à Marseille. Mais apprendre la nature.
Mais tu fais comment?
Ah, c'est mon secret.
Tu me le dis?
Non. Et tu as l'air tout sur ma vie. Mais pas si compliqué que ça.
Comme travailler, moi, 38 ans, j'ai travaillé. J'ai pas toujours été ici.
Hein. C'est quoi?
Ouais, les vieilles coursiers, gardien de la Tour Eiffel, bûcheron, Ouf, et alors, si je te montre.
Les gens qui crient.
C'est horrible, hein, ici.
C'est bien, hein. Quand ils entendent crier, comme ça, c'est horrible.
Qui est-ce qui crie?
Il y en a un, comme ça, chez nous aussi, qui gueule, comme ça. Qui est toujours en chambre d'isolement. Il se tape la tête contre les portes. Uh-huh. Ouais, c'est horrible.
Il y a une chambre d'isolement, comme ça, dans votre pavillon?
Il y en a deux.
Deux?
Ouais. Il y en a un qui s'est enfermé parce qu'il a tapé une infirmière, un Algérien. L'autre, c'est un malade. Presque trisomique, je sais pas trop ce qu'il y a. Moi, mes anniversaires, je les fête pas. J'ai pas l'occasion d'avoir des gens autour de moi pour les fêter. Demain, j'ai pas beaucoup d'amis.
T'as pas d'amis ici?
Pas vraiment. J'aimerais bien fêter mes anniversaires. Mon anniversaire, l'année dernière, j'étais à Shell au restaurant, j'ai eu 50 euros. Alors j'ai demandé, je me suis payé la montre à 5 euros, et après je suis parti sur Paris, c'était en hiver, mois de novembre. Et j'ai dormi dehors à Beaubourg avec mon costume de SDF qu'on m'avait donné quand j'étais mort de froid à la rue Saint-Denis. J'étais à la rue, il n'y a rien à bouffer, j'avais plus un rond, ils m'ont donné mon costume de SDF. Je me suis démerdé pour vivre un peu de temps à Paris, mais je n'en ai plus ici, c'est des fous, moi. Il est fou.
Alors, tu t'es échappé d'ici?
Ah ouais. 11 ans de prison pour avoir cassé 4 assiettes, il se fout pas de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a dans 5 lignes, moi?
Ils sont où, les gens qui crient comme ça?
Dans le parc. Dans le parc. Là, on voit apparaître les fleurs, les roses, c'est joli.
C'est beau, là, le parc au printemps, avec toutes les fleurs, les arbres.
Ouais, mais il y a mieux hein, qu'ici. Hein, ici, hein. C'est un lieu où il ne faut pas y passer sa vie. Hein. C'est mieux à faire. Hein. Même quand je travaille, c'est plus heureux. Hein. Mais je travaille toujours, mais pas sur ce que les gens pourraient comprendre. Hein.
Pas sérieux, n'empêche, j'ai vu chialer mes vieux. Je sais très bien, j'ai l'air un peu bizarre. Je suis pas comme ces enfants qui jouent au square. Docteur, il dit. C'est pas trop tard. N'empêche qu'il dit aussi que j'ai du retard. Elle me parle souvent, ma bonne étoile.
méchante, mais qu'il faut m'enfermer de temps en temps.
Le gâteau. Tu vas faire une peinture aussi? Tu vas peindre un peu?
Je vais faire une peinture après, oui. Après, on va manger le gâteau.
Tu t'en vas? Ah, d'accord. Bah, à tout à l'heure. Là, vous mettez en place les batteries, les micros?
Oui, parce que depuis qu'on a fait, un concert il y a deux jours, on n'a pas dû revenir, donc... On n'avait pas branché tous les instruments, on avait laissé les choses telles qu'on les avait ramenées du concert.
Faire un concert, il dit on a fait un concert, mais faire un concert c'est pas un truc simple, parce que c'est des gens qui sont pas censés faire des concerts. Les mecs ils sont dans l'hôpital, ils sortent tant bien que mal, ils se rencontrent dans un studio à Paris ou ailleurs, et depuis des années, ils essaient de mettre des morceaux de musique comme s'ils mettaient des plans de vie en marche, comme ça, en démonstration. Tu comprends? Quand il dit que oui, on a fait un concert, eh bien, c'est comme si on avait fait un vrai travail de vivant, parce qu'on a été dire que oui, on vit encore, mais tout de suite, les gens, ils minimisent, ils croient que oui, c'est des mecs, des malades dans un coin qui vont venir faire du bruit. Alors, ils minimisent la chose. Et donc, tu vois, c'est des approches de la musique, de ce qu'on pourrait faire qui, c'est un peu délicat et difficile. Donc, quand on va faire un concert, pour moi, ça prend une autre proportion, une autre dimension. Parce que c'est ça qui te tient en vie, en fait. C'est ça.
Surtout qu'on fait pas de la musique trop violente.
Et le groupe, vous l'avez fondé quand?
2001.
2001?
Ouais.
Ça s'appelle comment?
Démence précoce. C'est le nom qu'on donnait à la schizophrénie au 19e siècle.
Nous sommes tous fous alliés. Voilà ce qu'on peut lire sur, entre autres, sur les murs de cet atelier du non-fer dans l'enceinte de Maison Blanche, cet hôpital psychiatrique qui est en mutation actuellement puisqu'il va fermer peu à peu. Il reste encore cet étrange et surprenant et atelier où l'on peint, et pas seulement, puisque vous entendez le groupe Démence Précoce qui est en train de jouer. Ce qui se produit là comme peinture, ce qui se produit là comme musique, nous renvoie à tout l'intérêt que certains ont porté à l'art des fous, comme on disait, je pense à Jean Dubuffet et sa découverte de l'art brut et cette compagnie de l'art brut qui a perturbé complètement la vision qu'on pouvait avoir de la peinture et des pratiques dans le domaine des arts plastiques, le regard et puis d'autres gestes qui se font là et qui ne sont pas sans rappeler certains peintres. Je pense par exemple à Jackson Pollock, vous voyez, ce peintre de la trace comme ça, du geste. Eh bien, c'est autant d'interactions entre ce qui se produit là, les aliénés qui peignent dans le mystère, dans leur enfermement, et puis des artistes qui, en connexion avec ça, et agrandissent et mettent en question les barreaux de la cage et agrandissent la surface de la cage.
Moi, je suis prête. Avancer sur ta toile.
C'est fini.
C'est fini.
Ouais.
Tu me montres.
Tu fais un ananas. Un ananas, une banane, une pomme, un personnage.
Le personnage, c'est celui qui est en noir.
En noir, oui. Toujours. C'est un vampire.
Un vampire.
Un vampire, oui.
Pourquoi t'as fait un vampire?
Parce que ça fait du mal, ça se sent. Ce sont des filles. Ça plante ses dents, puis ça croque. Ça croque les filles.
Et pourquoi alors t'as fait un vampire?
Parce qu'il y avait la teinte de noir. Il y a deux trucs qui ont coulé bêtement. J'ai dit, je vais commencer à faire un personnage.
Et ça a fini, c'était un...
Ça a fini en vampire.
C'est moi, le tennis, Fabrice Foster.
C'est vous qui venez de jouer, là. Vous jouez extraordinairement bien.
Merci beaucoup, c'est du compliment, j'apprécie beaucoup.
Vous avez appris où?
Un peu partout.
On va parler dehors un petit peu? Mais il est parti en courant. Il est parti en courant, je crois. Il court, et là, il est rentré dans un pavillon. On reverra peut-être plus tard.
Savoir ton intelligence, connaître ta beauté intérieure, ta fragilité aussi. Être pour toi un lémurien, l'œil à l'envers, pour te veiller jour comme nuit. T'aimer pour ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu sois, quoi que tu fasses. Avoir le cœur à droite, tenir ta main gauche, nos sens chamboulés. Te dire enfin je t'aime dans un murmure d'océan de tendresse. Être un jupitérien, un saturnien, donc enfin l'amour infini, l'amour paradis.
Des milliers de toiles dans cet atelier du non-fer à Maison Blanche. Un grand livre a été publié, que j'ai sous les yeux, avec des œuvres. Pourquoi pas appeler ça des œuvres? Pourquoi pas? Étonnantes, surprenantes, des choses parfois tout à fait bof, banales, normales, qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, et des choses qu'on a vraiment l'impression de ne jamais avoir vues. Et évidemment, c'est ça qui est le plus passionnant, parce que ça, c'est ce qui nous perturbe.
Et effectivement, si on trouve des gens motivés, on pourrait dire ça, et pour nous sortir de l'asile, sortir ce qui est ici de l'asile, et pourquoi pas? Ouais, il faut qu'on trouve ça.
Ouais, il y a des milliers de toiles.
Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui voient tous ces tableaux et qui... il faut qu'on ait, on pourrait appeler ça un public, il faut qu'on cherche un public, il faut qu'on cherche des gens intéressés par cet aspect, ce côté de l'individu, et pour se rendre compte qu'il y a un vrai travail qui se fait, que les gens ont envie justement de se montrer, et faut pas que ça reste là, il faut pas que ça soit un espèce de camp d'œuvres d'art, machin. Il faut que ça soit un truc ouvert, et ouvert à tous, ouvert à tout le monde, ouvert aux contribuables, de toute manière, qui payent son argent. Pourquoi c'est l'argent du contribuable, hein, la peinture là, qu'on a là, tout ça. C'est quelque part, c'est l'hosto qui l'a donné, mais je veux dire, c'est les sous du contribuable, ces institutions psychiatriques, tout ça. Donc ce sera intéressant qu'ils se déplacent et qu'ils voient, et toutes ces choses-là, et qu'ils comprennent que pendant 20-25 ans, depuis 83, des gens
se sont battus pour vivre, survivre dans ce lieu-là. Et ils ont fait toutes ces choses-là pour dire que oui, ils ont envie de vivre. L'histoire, c'est, ils peuvent être montrés partout et surtout, c'est des choses représentatives de d'un état de l'individu à un moment, on pourrait dire à un moment donné. Parce que quand même, c'est fait ici, les gens, ils sont venus ici, ils ont été hospitalisés et ils ont fait ça. Mais effectivement, l'homme passe des moments difficiles et peut-être que ces tableaux-là traduisent ce qui se passe chez eux à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est peut-être que le beau, c'est ça, hein, parce que en fait, sans chercher vraiment à faire du beau, et les gens, ils arrivent à mettre en forme leur, on pourrait dire, peut-être un désespoir ou une difficulté à vivre. Et que le fait que le mec, il s'escrime, il joue comme ça. Et malgré ces 1000 gouttes de médicaments, je crois que c'est ça joue avec la nécessité vraiment. Ouais.
Mais il y a des gens vraiment doués. En tout cas, quand on voit ça, c'est.
Là, je parlerai pas par exemple de ce tableau-là parce que tu sais quand même c'est le mec qui lui s'est pendu dans Maison Blanche quoi. Et en 85. Et c'est il était au début du non-faire aussi ce jeune. Et donc c'est un peu difficile de parler de ce qu'il a fait, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui a pas vraiment non plus appris les choses. C'est vrai, c'est encore fait sur du drap, ça. C'est quelqu'un qui récupère un vieux drap et puis il tente de se dire dessus. Mais je peux pas trop en dire sur quelqu'un qui s'est mis dans une situation comme celle-là.
L'atelier du non-fer. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à tous. Merci à Lila Siwad et à tous les amis du non-fer. À découvrir l'atelier du non-fer, édité par l'École des hautes études en santé publique. Et puis, indispensable, Démence précoce sera en concert mercredi 24 juin à partir de 18h à la mairie du 2e arrondissement de Paris, 8 rue de la Banque, métro, bourse. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et là aussi vos commentaires sont bienvenus. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebotte. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont vous connaissez le numéro, 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.